Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de ce nouveau numéro de Métropolez-vous, la maison qui reste ouverte pendant le reconfinement. Heureusement, la vie continue aussi pour les grands projets métropolitains et même si l'activité économique est affectée par les mesures sanitaires renforcées, les services de la métropole fonctionnent toujours, comme par exemple les transports en commun, le métro, le tramway, les lignes de bus. Et dans ce domaine des transports, il y avait un rendez-vous important la semaine dernière, le 4 novembre, date à laquelle devait être choisi l'ensemblier qui allait fournir le système de la troisième ligne de métro, un événement d'importance qui nous donne l'occasion de faire le point sur l'avancement du chantier de la troisième ligne, sans doute le projet phare du mandat en cours pour Toulouse Métropole, central dans sa politique des mobilités avec cet autre projet d'importance qu'est le téléphérique Téléo. Quelles sont maintenant les échéances à venir? Ça va être le sujet de cette émission où nous allons faire le point sur les chantiers de la troisième ligne de métro et de Téléo. Et pour faire le point sur ces deux chantiers, dont le second est beaucoup plus avancé que le premier bien sûr, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Latte, un habitué de cette émission que je salue et remercie pour sa présence dans ce studio. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, chargé des transports en commun et président de Tisséo Collectivité, la structure, l'autorité qui organise les transports en commun et les mobilités de la grande agglomération toulousaine. À ce propos, je pense que nos auditeurs seront curieux de savoir comment se passe le reconfinement pour Tisséo. Est-ce que l'on constate déjà une baisse de la fréquentation des bus et métros? Qu'est-ce que le reconfinement implique pour le personnel de Tisséo? La mise en place de mesures sanitaires, peut-être de nouveaux horaires, dites-nous tout.
Oui, bonjour. Bien entendu, le confinement concerne les transports, avec un enjeu qui a été précisé par le Premier ministre, à savoir de maintenir l'offre de transport. Donc Tisséo maintient l'offre de transport, avec quelques limites quand même, par exemple le métro à 3h du matin pour les étudiants, ça on l'a arrêté. On devait ouvrir le métro à 3h du matin le jeudi, on ne l'a pas fait. Mais par contre, le reste du service est assuré. L'enjeu pour nous, c'est de permettre aux gens d'aller travailler. On avait déjà maintenu un service important lors de la première phase de confinement parce qu'il y avait tout le personnel soignant qui avait besoin des transports en commun. Alors c'est vrai, on a une baisse. On a une baisse qui est significative. On considère qu'on a baissé d'environ 60% au mois d'octobre. On s'y attendait, hein. C'est ce qui est la conséquence normale du dispositif. Mais par contre, même si la baisse de la fréquentation est là, le maintien de l'offre est là aussi. On ne baissera pas l'offre, même si la fréquentation baisse.
Et pour le personnel lui-même, est-ce que ça implique de nouvelles habitudes de travail, de faire encore plus attention que d'habitude?
Alors, on a beaucoup de choses en place sur le plan sanitaire. Alors là, c'est vrai, on le voit avec les vitres de protection pour les chauffeurs de bus, pour les systèmes de nettoyage des rames de métro plusieurs fois dans la journée, l'obligation de porter le masque, hein, c'est 135€ quand on est sans masque dans le métro. Tout cela est important. Après, pour les personnels eux-mêmes, on est un métier qui a besoin de personnes sur le terrain. Un bus ne se conduit pas à distance, donc on a vraiment des gens qui sont sur place. Le télétravail reste marginal à Tisséo.
Alors, vous avez parlé du premier confinement au printemps, de la baisse de trafic qu'il y avait eu. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur le chiffre d'affaires de Tisséo et sur même le résultat de l'entreprise?
Alors, c'est une baisse forte. On n'est pas encore au bilan. On l'aura en fin d'année. Néanmoins, on sait que les recettes commerciales seront beaucoup plus faibles qu'à la normale. Avec plus de 2 mois de confinement sur l'année, c'est une évidence. Et une baisse de ce qu'on appelle le versement transport, c'est-à-dire la taxe que versent les entreprises. Alors normalement, le gouvernement devrait compenser cette baisse du versement transport, ce qui fait que notre principal problème, ça sera bien entendu les recettes commerciales. En 2019, on a eu autour de 100 millions d'euros de recettes commerciales. Elles seront cette année beaucoup plus faibles.
Alors, l'information récente, je l'évoquais tout à l'heure dans mon introduction, c'est pour le chantier de la troisième ligne de métro, c'est le choix de l'ensemblier qui va fournir le système de transport et l'heureux élu, c'est Alstom. Quels étaient les autres candidats pour ce marché et sur quels critères avez-vous basé votre choix?
Alors, on avait 4 candidats. Alstom, bien sûr, mais aussi Siemens, qui a mis en place les 2 premières lignes de métro. On avait la CAF, qui est un groupement à dominante espagnole, mais avec des Français. Et on avait Hitachi, qui est un japonais italien, enfin voilà. Donc des grands groupes qui ont l'habitude de ce genre de chantier. Quatre candidats, c'est unique en France. C'est la première fois que quatre candidats sont allés au bout de la démarche. En général, c'est plutôt deux, voire trois, mais c'était signe d'un intérêt majeur pour cette troisième ligne. Ce qui s'est passé mercredi dernier est essentiel. C'est-à-dire qu'on a, après plus de deux ans de travail, fait le choix d'un ensemblier qui va être à la base du dispositif. Financièrement, on avait estimé cette étape à 800 millions d'euros. On va être à un peu plus de 710 millions d'euros, donc une baisse de 18% qui est intéressante pour nous. Alstom a été le premier à la fois sur le prix et sur la qualité technique. Donc c'est quelque chose qui s'est fait, un choix qui s'est fait sans difficulté, puisque Alstom s'est détaché sur ces deux critères.
On peut peut-être rappeler ou préciser plutôt à nos auditeurs ce que comprend un système de transport pour une ligne de métro.
Alors, l'ensemblier, c'est quoi? C'est d'abord les rames. Alors, ces rames, elles seront plus grandes, plus importantes que les rames précédentes, puisque le standard du métro aujourd'hui est ainsi. On a aujourd'hui des rames qui sont à 2,6 m. Les futures rames seront à 2,70 m, donc on sera vraiment sur quelque chose de plus confortable, plus large. Mais des rames contemporaines, c'est une deuxième génération par rapport à notre métro actuel, qui est déjà assez agréable, avec des rames climatisées, la vidéosurveillance embarquée, des rames traversantes, c'est-à-dire qu'on pourra aller d'une rame à l'autre pendant le trajet, comme on connaît quelques rames traversantes sur Paris, et un système de lumière qui va s'adapter aux circonstances. Ça fait vraiment quelque chose qui est très très contemporain avec toutes les nouveautés que l'on peut imaginer.
Oui, parce qu'il faut préciser aussi que les deux précédentes lignes de métro sont équipées avec un VAL, donc c'est Siemens.
Oui.
Donc là, vous avez choisi un autre ensemblier, mais de toute façon, il n'était pas possible de maintenir le même matériel que celui des deux autres lignes.
Exactement, c'est une question qu'on m'a posée. On m'a dit, mais il suffit de prendre le troisième comme les deux autres, comme ça il y aura de l'interopérabilité, etc. etc. Oui, sauf que le VAL que l'on connaît, n'est plus produit aujourd'hui. Siemens produit le Neoval, qui est un métro plus grand, plus important, et d'ailleurs c'est le Neoval qui a été proposé à l'appel d'offres, donc il était impossible d'avoir une troisième ligne sur le système actuel. Et donc la troisième ligne sera indépendante du dispositif, ce qui n'est pas très gênant, hein, ce qui n'est pas très gênant pour nous, donc on aura un système autonome sur la troisième ligne. Si je prends les lignes de métro de Rennes, on a une ligne comme la nôtre, la première, la ligne 1, et la ligne 2 c'est du Neoval. Elle n'est pas encore inaugurée, mais elle sera avec un gabarit plus important. C'est Siemens dans les deux cas, sans pour autant qu'il y ait opérabilité, interopérabilité entre les deux.
Dans les critères, le cahier des charges donc, qui a prédominé pour le choix de l'ensemblier, il y a évidemment, je suppose, des aspects économiques, mais il y a aussi des aspects environnementaux, sans doute, de recyclage, de matériaux utilisés.
Très, très important. Ça fait partie des données nouvelles par rapport à ce type d'appel d'offres. À tout niveau. Par exemple, une des grosses qualités du système Alstom, c'est la récupération du freinage, qui redevient de l'énergie. Donc on économise
en termes de consommation d'énergie. Consommation d'énergie.
Les rames, par exemple, sont recyclables. On avait fixé la barre à 95%. Elles sont recyclables à 96%. C'est-à-dire qu'une rame qui est en fin de vie, ben, elle est quasiment intégralement recyclable. C'est un des enjeux majeurs des nouveaux chantiers que nous connaissons aujourd'hui.
Avant de parler de l'avancement du chantier de la troisième ligne, est-ce que vous pouvez en rappeler le tracé, le nombre de stations et les quartiers et communes qu'elle va desservir?
Alors on est sur 28 km, 21 stations, on part de la Bège, j'aurais pu prendre dans l'autre sens, mais en fait là on va partir de la Bège, on passe par Montaudran, on passe par la Côte Pavée, Lormeau-Jean-Rieu, on passe par François Verdier, là il y a le grand croisement avec la ligne B, on repart vers Matabio, grand croisement avec la ligne A, et puis on monte vers ce qu'on appelle la Vache, la partie nord de Toulouse, on redescend par le boulevard de Suisse. On a une station importante pour moi qui est la station 7 Denier Stade Toulousain. Et puis de là, on part vers Blagnac, Jean Maga. Et on termine, après être passé le long des usines Airbus, à la gare de Colomiers. Jean Maga, c'est une partie importante parce que c'est là qu'on a la connexion avec la voie express, la navette express qui mène à l'aéroport.
Alors, en vous écoutant, je me rendais compte qu'il y a un certain nombre de zones qui n'étaient pas desservies du tout précédemment, ni par le métro, ni par le tramway. Et ce sont sans doute les impératifs qui ont présidé au choix de ce tracé, desservir des zones qui ne l'étaient pas du tout.
Si on se basait dans un projet comme ça sur les zones habitées, on referait une troisième ligne qui passe en centre-ville. Mais l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de prévoir le Toulouse de demain. Et le Toulouse demain, c'est une ville qui sera plus large dans son usage que la ville actuelle. Et donc, il fallait que l'on cible à la fois les zones économiques, et elles sont très impactées par cette ligne, mais aussi les zones qui peuvent se renouveler. Je pense à la zone de l'avenue des États-Unis qui va être largement renouvelée. On est aujourd'hui sur des zones qui sont peu qualitatives, avec des locaux industriels un peu vieillis. Et donc, on pourra avoir de la densification en habitat, on pourra avoir des renouvellements urbains en qualitatif. Je crois que l'enjeu de cette troisième ligne, c'est d'imaginer le Toulouse de demain.
Le montant global de l'investissement, rappelons-le aussi, donc pour cette troisième ligne de métro.
Alors, la troisième ligne, c'est 2,7 milliards en prévisionnel. Et le plan de déplacement urbain, le projet mobilité, parce qu'il n'y a pas que la troisième ligne, à l'échéance 2030, c'est 4 milliards en tout, parce qu'on a dedans les nouvelles lignes Linéo, on a le téléphérique en cours de construction, etc., etc. Tout cela, c'est le projet réseau, puisqu'il n'y a pas que le métro dans notre projet réseau.
Et cette troisième ligne de métro, combien de passagers devraient l'emprunter chaque jour ?
À l'ouverture, on espère 200 000 voyageurs. Il faut savoir que sur la ligne B, on est à 230 000 aujourd'hui. Sur la ligne A, on dépasse assez régulièrement les 250 000. Mais on veut avoir un système qui évolue. Sur la ligne A, avec l'extension maintenant, on pourra aller jusqu'à 400 000. On va faire une ligne B étendue dans l'avenir, ce n'est pas encore décidé, mais qui elle aussi pourra passer à 400 000. La ligne 3, elle peut aller jusqu'à 600 000 en capacité. Donc on est sur un système qui est évolutif, il n'y aura pas de travaux supplémentaires à faire au gré de l'évolution, mais on pourra prendre en compte la mutation de la population toulousaine.
Vous parliez de changement sur la ligne B, ça veut dire que vous allez l'allonger, rajouter des stations ?
Alors,
la
ligne B, on a le projet de doubler les rames comme la ligne A. On est aujourd'hui un système à deux rames. On passera un jour à quatre rames. Les quais sont à hauteur. Il y a quand même beaucoup de modifications à faire quand même sur la partie technique. Ça, c'est quelque chose qui se fera. Il y a une progression qui vient de la jonction entre la station Ramonville et la troisième ligne devant ce qu'on appelle l'INP, c'est-à-dire grosso modo Carrefour-la-Bège à peu près. Pour nous, l'augmentation de capacité passera par le doublement des rames.
Alors, le calendrier maintenant pour la troisième ligne de métro, pour son ouverture, quelles vont être maintenant les grandes étapes de sa construction ?
Alors, ce sont des chantiers très longs. Ce sont des chantiers très longs nécessairement, mais il faut penser qu'on est sur un investissement à 50 ans. C'est-à-dire, ce qui se met en place, c'est des décennies de fonctionnement, comme on le voit d'ailleurs avec la ligne A qui a dépassé déjà son quart de siècle. Et on a donc quelques étapes à franchir. L'étape de mercredi était fondamentale parce que c'est elle qui va déterminer ensuite la façon de gérer le gros œuvre. On a en 2021 à obtenir l'autorisation environnementale, dernière étape juridique du dispositif, qui a connu de nombreuses étapes puisqu'il y a eu le grand débat public, il y a eu le débat public sur le plan de déplacement mobilité, le PDU, avec la décision de valider ce PDU, et puis le grand débat sur la troisième ligne qui a eu lieu dans la foulée. Donc on a eu vraiment un enchaînement de contraintes juridiques. C'est avec la préfecture que l'on va gérer cette autorisation environnementale, et à partir de là, je veux dire, les voyants sont ouverts, on pourra passer à la phase appel d'offres. Et 2022 va être une date clé parce que ces appels d'offres, ils vont déterminer le calendrier à venir. Donc pour nous, le rendez-vous sur le calendrier, c'est avant tout 2022, avec des recalages évidents, puisque aujourd'hui, un chantier ne se passe plus comme avant. On le voit aujourd'hui, tous les jours, quand on va sur le chantier du téléphérique, c'est plus compliqué qu'avant. On a des protocoles sanitaires à gérer, d'autant plus compliqué qu'on aura beaucoup d'entreprises qui travaillent en même temps. Et c'est ça qui est complexe. Il faut qu'on ait un système qui prenne la mesure de cette diversité.
Donc si tout se passait bien, le vrai coup d'envoi du chantier, ce serait 2022.
Voilà. Et en 2022, on sera en capacité de dire quelle sera la durée probable du chantier.
Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer sur une date d'ouverture. Ce ne sera pas avant 2025, ça c'est sûr.
Non, ça serait...
Ça serait très beau.
Ça serait très rapide. Par contre, on va essayer d'aller le plus vite possible. Par exemple, on va passer par 5 tunneliers. Il y en avait 2 pour les premières lignes. Là, on passera avec 5 tunneliers pour pouvoir creuser plus vite.
Plus rapidement. Voilà. Alors, il y a tout de même des travaux qui ont déjà été réalisés, les travaux préparatoires, notamment ce qu'on appelle les sondages géotechniques. Qu'est-ce qu'ils ont révélé ? Concernant le sol, tous les voyants sont au vert, puis je reprends votre expression.
Oui, on a fait plus de 200 carottages qui ont permis de confirmer ce qu'on sait déjà, à savoir que le sol toulousain, c'est la Marne, c'est facile à traiter. Contrairement à la fragilité du sol bordelais ou à l'absence d'homogénéité du sol de Rennes, nous, on a un sol qui est vraiment adapté. Donc ça devrait se passer comme les deux premières lignes, où il n'y a pas eu de difficultés particulières. C'est un sol homogène. On a aussi terminé les fouilles archéologiques, puisque ça participe au dispositif. On pensait bien qu'il n'y aurait pas autant de choses que sur les premières lignes parce qu'on n'était pas sur le centre historique de Toulouse. Et maintenant, il nous reste à faire ce qu'on appelle les dévoiements de réseau en liaison avec Toulouse Métropole, c'est-à-dire prévoir d'écarter tous les réseaux des axes où vont passer les tunneliers.
Ça aussi, ce sont des travaux préparatoires avant le vrai lancement du chantier. Alors, la question qui se pose aussi, c'est ces périodes de confinement, reconfinement qui, évidemment, retardent. Est-ce que ça entraîne des surcoûts ? le fait qu'on soit, les chantiers soient arrêtés. Une fois qu'il sera lancé, s'il y avait des arrêts comme ça, est-ce que ça entraînera des surcoûts?
Bien sûr, puisqu'il y a de l'immobilisation de matériel, etc., etc. Donc, il y a un effet Covid sur tous nos chantiers, hein, comme partout ailleurs. C'est pas propre à Toulouse, c'est pas propre à Tisséo. Donc, les chantiers, aujourd'hui, coûtent plus cher. Alors, par contre, on a de bonnes surprises, nous, aujourd'hui, sur les appels d'offres, parce que les entreprises ont besoin de marché et donc se battent économiquement pour les obtenir. 18%. De moins que prévu pour Alstom. Donc on est sur des choses qui pourraient s'équilibrer.
Oui, et des économies pourraient compenser effectivement d'éventuels surcoûts.
Voilà, on va voir.
Plus qu'éventuels.
On va voir plus le fait qu'aujourd'hui les taux d'intérêt restent à des niveaux extrêmement bas, hein, ce qui est profitable pour nous aussi.
On entend beaucoup en ce moment le terme de relance, plan de relance, la commande publique, et ça, c'en est une, énorme. Ça y participe évidemment,
clairement,
très important.
Dès le renouvellement du mandat, j'ai remis en place la commission d'appel d'offres, parce que Tisséo est un des premiers opérateurs financiers du dispositif. Donc la commande publique, elle est fondamentale et il fallait qu'on accélère ces commandes publiques. Les entreprises attendent ça. C'est très important pour Toulouse. On a eu des débats avec nos opposants sur l'idée qu'ils développaient de faire une pause, etc., etc. Faire une pause, ça aurait été ajouter de la crise à la crise. Nous, on considère au contraire que le besoin des placements, il existait avant la crise, il existe toujours après la crise et donc il faut le traiter.
On va en venir maintenant à Téléo, donc le téléphérique urbain sud. Où en est le chantier? Alors moi, j'ai pu voir les pylônes de très près, au CHU de Rangueil, il y en a un là. J'ai l'impression que c'est déjà bien avancé.
À la fin du mois d'octobre, on a terminé la partie pylône, les 5 pylônes. Le dernier pylône, c'était celui de l'Oncopole, qui mesure plus de 70 mètres, c'est le plus grand. C'est pas le plus haut, mais c'est le plus grand. Et on est maintenant sur une phase qui va être passionnante, qui va démarrer jeudi, qui est la phase tirage des câbles. Jeudi, je serai là-bas sur Pêche David. Pourquoi ? Parce que ce sont des hélicoptères Puma, donc quelque chose de très spectaculaire, des gros hélicoptères qui vont tirer les câbles dans ce contexte-là pour préparer le tirage de ces câbles. Après, ça prendra plusieurs mois, hein, mais le positionnement passe par cette opération d'hélicoptère. En janvier, on aura l'arrivée des premières cabines du dispositif. En avril, on aura la marche à blanc. Et à l'été, j'espère, le lancement du fonctionnement commercial de ce dispositif.
Donc c'est 2021, ça on peut l'annoncer, c'est
voilà.
Sûr,
été
2021.
Ce qu'il faut dire, c'est que le téléphérique, c'est un morceau de ce qu'on appelle la ceinture sud. Le téléphérique en soi n'aurait pas été suffisant en termes de transport. En fait, c'est une grande ceinture sud qui part de Montaudran et qui va jusqu'à Colomiers, en passant par Tournefeuille, avec au milieu le téléphérique qui permet de passer l'obstacle de la colline de Pêche David, mais quelqu'un qui veut aller de Montaudran à Colomiers sans passer par le centre-ville, il pourra grâce à la ceinture sud. Donc l'enjeu, c'est cette combinaison de bus rapides de type Linéo et de téléphérique qui permet d'avoir la possibilité de passer par le Grand Sud toulousain sans passer par le centre-ville. Aujourd'hui, on est obligé de passer par le centre-ville quand on va aller de Colomiers à Montaudran.
Donc, les points qu'il relie précisément, donc le téléphérique.
Alors, c'est Paul Sabatier, et c'est de là d'ailleurs que part la ligne rapide vers Montaudran. C'est le CHU de Rangueil, et c'est l'Oncopole, et c'est de l'Oncopole que part la ligne rapide qui est en train d'être construite en direction de Colomiers.
Combien de passagers il pourra transporter à chaque liaison?
Alors, on est sur des cabines qui contiennent 35 passagers. Ce sont de grosses cabines. Souvent, on me dit, mais à quoi ça ressemble? J'ai dit, c'est comme un système d'œufs, comme on connaît dans les stations de ski, mais à la place des œufs, on met des téléphériques. Donc, c'est 15 cabines. On aura une cabine toutes les minutes et demie. Donc, c'est un rythme rapide. Le trajet, ce sera moins de 10 minutes pour aller d'un point à l'autre. Donc, ce sera très efficace. Et puis, des cabines modulables, on pourra monter avec son vélo. Bien entendu, c'est adapté pour les personnes handicapées. Enfin, tout est prévu pour que ce soit conforme à ce que nous attendons. On espère, au début, une fréquentation de l'ordre de 8000 personnes jour, mais avec une capacité de progression importante.
Le choix des téléphériques là, donc pour ce tracé, ce parcours, c'était pourquoi? Parce que c'est à la fois bon marché, écologique?
Il y a plein de raisons. Le point de départ, celui qui a le premier pensé à ça, c'était Philippe Douste-Blazy, qui, post-AZF, était en train de relancer le développement économique du site. Et c'est lui qui a eu l'idée et l'intuition de faire venir le cancéropole sur place. Et donc, il avait dit que ça serait peut-être un outil qui permettrait de relier les pôles médicaux entre eux. Il n'était pas dans la perspective ceinture sud. Pierre Cohen a repris la même perspective en restant sur cette logique de trois points. Et nous, j'avoue que j'étais assez dubitatif, moi, sur l'usage en soi du téléphérique. On a été convaincus quand on a vu qu'on pouvait faire à travers ce téléphérique cette grande ceinture sud. Donc ce réseau du sud de Toulouse. Et donc c'est ce qui a complété ce parcours politique. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est moins cher que d'autres projets. Hein. On est en aérien, il y a peu de foncier, c'est très écologique, c'est le système le plus écologique. Et voilà, donc tout cela a participé à faire que nous avons confirmé le choix.
Une question qu'on peut se poser, il y a des vents parfois très forts à Toulouse, on l'a vu encore ce week-end, qui peuvent dépasser les 100 km/h sur certaines rafales. Est-ce qu'il n'y aura pas des conditions où le téléphérique ne pourra pas être utilisé ?
Alors, le téléphérique, ce sont des cabines lourdes, on vient de le dire. La cabine peut résister jusqu'à environ 108 km/h. Si on avait pris les petites cabines qui étaient en alternance dans ce choix-là, on aurait été beaucoup plus en difficulté. On a fait une étude météo sur 20 ans. Et si on prend la statistique du vent sur 20 ans, grosso modo, ce téléphérique, il sera arrêté 2 jours par an. Voilà, c'est à peu près. Et ça nous a semblé quelque chose de raisonnable. Voilà, on est sur cette hypothèse-là.
Quand je vois les vents qu'il y a eu ce week-end, je me disais quand même qu'on doit être ballotté, même s'il n'y a pas de risque.
Oui, bon. Mais les téléphériques fonctionnent depuis plus de 50 ans dans les stations de ski.
Ils ont fait leur preuve.
Oui, on a pris Poma. Poma, c'est un opérateur qui est connu. Il y a eu plusieurs choix. Sur Brest, par exemple, ils ont choisi un système plus original à bicable qui était expérimental. La difficulté, c'est qu'ils ont beaucoup de pannes et ils ont été bloqués plusieurs mois par cette technique non confirmée.
Alors, tous ces futurs nouveaux moyens de transport à Toulouse vont participer, devraient participer à la baisse du trafic routier sur le périphérique. Au lieu de prendre la voiture, on va prendre la troisième ligne de métro, on va prendre le téléphérique. Est-ce qu'on a évalué les impacts, les gains sur le temps passé dans les embouteillages? Et puis, par conséquent, est-ce qu'on a aussi estimé les effets sur l'empreinte carbone dans la métropole toulousaine?
Oui, et c'est un effet important. On considère que la troisième ligne, par exemple, c'est 90 000 voitures de moins par jour. Donc, quelque chose de considérable. Et on est sur des transports électriques, qui sont des transports propres. Donc ça fait partie aujourd'hui des données de base. On n'aurait pas obtenu la déclaration d'utilité publique de la troisième ligne si on n'avait pas eu de bons résultats sur ce créneau-là aussi. C'est une attente forte, c'est une attente majeure. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux face à ce risque-là. Donc tout ICO est en ordre de marche par rapport à cela, parce qu'il y a le métro, il y a le téléphérique qui est sans doute le système le plus performant sur le niveau écologique, mais on est en train de changer nos derniers bus diesel pour passer intégralement au gaz ou à l'électrique. On a un projet avec l'hydrogène. Donc on est sur un réseau qui va devenir entièrement propre. Il l'est déjà très largement.
Alors quand tout sera en fonction, est-ce qu'il va rester tout de même des zones dans la métropole qui seront encore mal desservies et pour lesquelles il faudra encore imaginer des améliorations ou construire peut-être de nouvelles voies, de nouveaux moyens de transport?
Bien sûr, je crois que c'est un chantier qui est sans cesse renouvelé. Avoir le sentiment qu'un jour on aura tout fait, c'est un sentiment qui est nécessairement faux. On réfléchit déjà à des solutions pour des problèmes particuliers. Par exemple, lors du prochain conseil syndical, on va voter la première ligne rapide, Muret-Toulouse. C'est quoi une ligne rapide? C'est un nouveau concept qui vise à relier 2 pôles importants qui sont séparés par des zones rurales. Et donc ce sont des bus qui vont partir d'un point important et qui vont s'arrêter très peu sur le trajet pour aller sur un autre point. Donc on a prévu 5 projets de lignes rapides autour du territoire toulousain. On a le projet de ligne d'emploi. Ligne d'emploi, c'est quoi? Ce sont des bus qui sont à forte fréquence à 8h du matin, à forte fréquence à 17h, 18h, et beaucoup moins fréquentes dans la journée parce que ça sera moins nécessaire. Donc on essaye d'imaginer toute cette stratégie, et puis il y a toutes les combinaisons qu'on peut trouver avec le réseau express vélo que l'on essaye de greffer sur notre système de transport. Donc on est sur la recherche d'un maillage qui est toujours améliorable. Je crois qu'il ne faut jamais se dire « ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait ». Non, il faut se dire « qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ?»
Oui, puis il y a aussi maintenant c'est les aspects environnementaux qui pèsent de plus en plus, qui ne sont sans doute pas faciles à intégrer dans toutes les projections qu'on peut faire.
Oui, c'est toute la complexité du dispositif. Donc il faut qu'on arrive à combiner un effort nécessaire de maillage avec la nécessité environnementale qui est aujourd'hui dominante, on y travaille.
Voilà donc pour ce point que nous voulions vous proposer sur les chantiers de la troisième ligne de métro et du téléphérique Téléo et puis sur l'ensemble du plan mobilité en général dans la métropole toulousaine. Merci beaucoup Jean-Michel Latte d'avoir été l'invité de cette émission et d'avoir présenté à nos auditeurs cet état des lieux sur l'avancement de ces 2 projets essentiels, je le redis, pour la politique de transport et les mobilités dans la métropole toulousaine. Téléo devrait donc pouvoir fonctionner dès 2021, à l'été a priori, et je suis certain que beaucoup d'entre nous sont impatients de le voir en action et de l'utiliser. Quant à la troisième ligne de métro, eh bien on espère qu'elle pourra ouvrir peut-être en 2026. Espérons-le, en tout cas, les chantiers, le grand chantier devrait être lancé en 2022. Nous allons suivre, bien sûr, les prochaines étapes de sa construction. Si vous souhaitez avoir encore plus de détails sur l'un et l'autre chantier, je vous invite à consulter le site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la catégorie projet, rubrique troisième ligne de métro et téléphérique urbain sud. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Rendez-vous la semaine semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, gardez le moral et métropolez-vous bien.
Métropolez-vous. Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.